R22 Tout Monde, antenne La Fabrique Fantôme.
Bonsoir, bienvenue à l'espace Kiasma. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour la reprise en 2015 du programme des Lundis de Fantôme. Je vais en dire juste deux petits mots rapidement avant d'accueillir Louis Anderson. Donc, les Lundis de Fantôme, c'est un programme qui a 2 ans, qui est un programme qui est coproduit et accueilli par Kiasma en collaboration avec La Fabrique Fantôme. La Fabrique Fantôme, donc, c'est une structure qui s'est créée parallèlement et en collaboration avec Kiasma, plutôt dédiée, même essentiellement dédiée au cinéma d'artistes, qui est à la fois un ensemble d'outils qu'on met à disposition des artistes pour fabriquer des films. Donc il y a un espace de montage, un logement, différents outils pour fabriquer des films, et aussi des programmes, dont celui-ci, Lundi de Fantôme, qui sont destinés à mettre en partage le travail en train de se faire. Donc le choix qu'on a fait, c'est à la fois d'inviter des artistes qui montrent des œuvres et des films qu'ils ont déjà réalisés, mais aussi qui présentent des projets qu'ils sont en train de réaliser. Le principe des lundis, c'est aussi un principe itératif, où on retrouve en fait des gens dans l'année. Bon, pour ceux qui ont suivi le programme les années passées, on a notamment accueilli Ismaïl Barry pendant plusieurs Lundis de Fantôme, tout au long du processus de création de sa dernière exposition qui s'appelle Sommeil, qui a été présentée ici à Kiasma à l'automne, et qui a donné une variation qui s'appelle Filmé à blanc, qui est présentée à la grille du Fil du Calvaire à partir de jeudi prochain. Donc l'idée était, par exemple avec Ismaïl, de démarrer au tout début du processus avec ses premières idées, montrer des pièces précédentes et aller au fil des rencontres, on en a fait 5 ou 6, vers ce nouveau projet. Donc moi, je suis très content en tout cas d'accueillir Louis Anderson, qui est donc en 2015 le premier à inaugurer le nouveau programme. Donc on accueillera au prochain lundi Frédéric Nosiciel, on réaccueillera aussi Louis plusieurs fois dans l'année, mais aussi François Desraux. Donc en gros, tout un ensemble de cinéastes avec qui on a des relations de travail, sur des expositions, sur des pièces en train d'arriver, sur des travaux qui nous intéressent, avec l'écriture particulière qu'a le cinéma d'artiste aujourd'hui. Donc à la fois, il y a une vocation au programme d'être un peu aussi un panorama de la création du moment en cinéma. Pour dire aussi que ce cinéma d'artiste, c'est aussi un cinéma qui est fragile, qui est aussi fait dans une forme un peu artisanale. Et l'enjeu, en tout cas, de La Fabrique Fantôme, c'est un espace d'accueil pour ce travail qui est parfois un travail solitaire et dont on essaie de construire un peu une communauté de discussion et d'échange. La fonction de ces lundis, c'est donc pas simplement un programme de diffusion, mais c'est aussi d'avoir des échanges autour de formes qu'on montre. Donc ce soir, c'est la première rencontre avec Louis, que je remercie d'avoir accepté cette invitation. On va traverser en fait ces deux films précédents qu'il a réalisés. Le premier, Logical Revels, et le second, Lettre du Voyant, pour venir après à discuter en troisième partie, on va regarder d'un film à venir autour de Toussaint l'Ouverture. Je pense que les films qu'on va voir aujourd'hui ne sont pas non plus tout à fait ici par hasard, bien évidemment, mais que c'est aussi des rencontres que présente ce programme. Donc, Louis, tu veux dire quelque chose?
Oui. Merci d'être venu, si nombreux. Oui, en fait, ce soir, on va montrer 2 films, comme Olivier disait, qui font partie d'une trilogie, des films, si je peux le dire, qui sont archéologiques dans la méthode en fait, de travail. Mais les films font partie aussi d'un projet de ma pratique, bien sûr. Moi, j'ai commencé à faire des films en 2010. Et avec mon premier film, j'ai déjà commencé de faire cette espèce de recherche archéologique. Donc peut-être on peut parler un peu plus de ça plus tard. Et après, on va parler de ce nouveau film que je suis en train de préparer en ce moment. C'est un film que je vais tourner en France, dans le Jura, et aussi à Haïti, qu'on est en train de préparer ensemble. Et je suis ici ce soir juste pour montrer des choses, en fait. Donc peut-être on peut commencer par un film.
Ouais, on va commencer par voir Logical Revels, qui est un film qui date de...
Ah oui, c'est un film que j'ai tourné, que j'ai fait en 2012, que j'ai fait en tant qu'étudiant du Frénois. Je l'ai fait presque exactement 1 an après la révolution, enfin pas après, mais après le commencement de la révolution haïtienne. Ça serait génial. Mais c'est déjà passé il y a quelques années. La révolution égyptienne. Oui, que j'ai fait en 2012.
The story begins here.
De manière vraiment la plus directe, mais on va trouver ça aussi dans les propositions suivantes. En tout cas, se pose la question du narrateur. Et cette question, qui est une question un peu nodale dans le moment colonial et post-colonial, qui est légitime pour raconter l'histoire. Et là, dès le départ, tu fais déjà une opération où toi-même, en tant que narrateur, déjà tu es dans une correspondance avec un autre, donc déjà il y a une mise en abîme de ta propre narration.
Oui. Oui, parce que je ne sais pas si on déteste en fait ce narrateur dans ce film. Chaque fois que je le vois, je me pose la question, parce que enfin, ce narrateur, en fait c'est moi le narrateur, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait les images pour le narrateur. Donc il y a tout ce jeu entre lui qui est moi, qui est en train de monter le film, peut-être, et aussi de montrer mais les images de ce type Henderson. Mm. Et bien sûr, je m'appelle Louis Henderson, donc il y a, ça fait une sorte de
double
schizophrène, ou schizophrénique, de essayer peut-être de critiquer quelques prétentions, je crois, que je trouve peut-être, bien sûr, même dans ma pratique, mais aussi dans la pratique de pas mal de cinéastes qui ont essayé de faire un cinéma ethnographique, que je trouve presque impossible maintenant de comment faire un film ethnographique après toutes ces études postcoloniales. Donc, j'ai pas de toutes des réponses pour ces questions. C'est une question que moi, j'aime bien de poser, mais aussi d'essayer peut-être de le problématiser encore un peu plus profondément. En fait, ça, c'était la première fois que j'ai fait un film en dehors d'Angleterre, en fait. Parce qu'avant ça, j'ai fait que trois petits courts-métrages que j'ai tournés à Londres, qui était ma ville pendant des années. Et donc, pour moi, c'était la première fois que j'ai essayé vraiment d'aller dans un endroit étranger, en disant, pour faire un film. Et quand je suis arrivé pour faire des repérages, je me suis dit, en fait, c'est très difficile d'avoir un point de vue, je sais pas. Je crois que moi, j'avais beaucoup des attentes. Et quand je suis arrivé pour la première fois, c'était pas du tout là, en fait. Et donc, j'ai essayé de faire quelque chose avec lequel je peux faire une sorte d'autre critique, en fait, d'exactement de ses prétentions. Donc, il y a toute une naïveté qui est dans le film aussi.
Mais tu disais aussi, il y a aussi un plusieurs niveaux de critique, puisque dans la question aussi d'une étude déjà critique postcoloniale, il y a une espèce de confiance tacite dans la puissance de l'archive et du document,
oui,
que là aussi tu mets en critique, puisque quelque part, à chaque fois que l'archive propose une possibilité, dans le présent, elle ne s'accomplit pas ou elle disparaît, on ne la retrouve pas.
Oui, parce qu'en fait, le fait d'utiliser cet scénario comme une carte, c'est complètement fou. Mais en fait, c'était vraiment le projet. Depuis le début, c'était le projet. Si je peux être honnête, en fait, moi, j'avais vraiment pensé d'utiliser cet scénario. Parce que ça, c'est vrai, j'ai vraiment trouvé un scénario des Nations Unies. Et je me suis dit, peut-être que je peux aller en Égypte pendant la Révolution avec cet scénario comme une sorte de carte, en essayant de trouver les lieux. Mais bien sûr, on peut pas avoir confiance en des documents, des archives comme ça, parce qu'ils sont, enfin, aussi parce que j'ai trouvé un scénario qui était quelque chose presque complètement fictionnel. C'était, oui, bien sûr, c'était un scénario pour un film plutôt documentaire autour de la crise de la canal de Suez, mais c'était un scénario qui était écrit par les Israéliens, par les membres d'ONU, qui avaient vraiment, enfin, des enjeux très spécifique. Moi, j'ai bien compris avant d'y aller qu'il y avait tous ces problèmes avec le scénario. Et donc, les Nations Unies, ils ont tourné un documentaire pendant la crise de la canal de Suez. Et après, ils ont décidé de réécrire le documentaire. Et ils étaient obligés d'écrire une sorte de scénario pour montrer enfin tous les membres de cette film board des Nations Unies. Donc c'est pas exactement un scénario, c'est plutôt dialogue list, ou je sais pas exactement, mais c'est la forme écrite d'un film documentaire. J'ai trouvé le film, en fait, ça existe dans les archives au Canada, dans les archives de Film Board of Canada, the National Film Board of Canada. Et le film est très suspect, en fait, par rapport à son point de vue autour de la crise de la canal de Suez, mais aussi l'intervention militaire des Nations Unies et aussi le traitement des réfugiés palestiniens pendant l'époque, parce que ça fait partie de ce moment-là. Et donc, je crois que, parce que aussi avant que j'ai fait ce film, j'ai fait, ouais, comme je disais, trois courts-métrages où j'ai utilisé des documents, des photos, des textes que j'ai trouvés dans des archives. Et je crois que j'avais toujours fait un peu trop de confiance dans ces photos, ces textes pour raconter des histoires vraies ou pour raconter des choses. Et en fait, avec ce film-là, j'ai essayé de faire une sorte de rupture avec ces pratiques, avec cette croyance dans le pouvoir des matériaux, des archives. Donc, c'est aussi pour ça que j'essaie de faire cette espèce de split entre moi et quelqu'un d'autre, parce que je crois que c'est lui qui était peut-être moi avant que j'ai fait le montage. Parce que aussi, pas mal de ces idées qui sont dans ce film-là, ils sont venus après que j'ai déjà fait le tournage, en fait. Parce que j'ai écrit ce film pendant le montage. J'ai commencé un tournage, un peu dans une manière un peu folle, peut-être. Je suis allé en Égypte avec mon petit caméra tourné à la main. J'ai pris des images. Et après, je suis revenu en France et j'ai parlé avec pas mal de gens au frais de moi, particulièrement, qui m'ont dit, mais par exemple, quelqu'un qui m'a dit, mais lui, tu as fait que des images comme des cartes postales. Là, tu n'as absolument rien à dire. Et j'ai dit, ah, bon, ok, donc il faut faire quelque chose avec ça. C'est intéressant quand même qu'il y a, bien sûr, une partie de moi un peu étrange, peut-être, parce que c'est vrai, je fais presque des images, des cartes postales. Mais j'ai pensé que peut-être il y avait quelque chose là-dedans. Et donc, pendant le montage, j'ai commencé à écrire ce texte comme une sorte d'autocritique de moi, mais aussi d'une manière en général que je trouve qui, spécialement pendant ce moment-là, il y avait vraiment une sorte de genre des films, des révolutions qui étaient faits par des Européennes ou des Américains qui ont toujours essayé de prendre le point de vue un peu trop... Enfin, je ne vais pas dire des noms, mais...
Mais toi, tu dis justement que ce que tu constates, c'est une impossibilité ontologique, justement, de se dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui est indéchiffrable, impénétrable. Ouais. On le verra aussi dans le film suivant avec L'être du voyant.
Oui.
Et que la dimension, impénétrable, opaque, et donc ça, c'est aussi l'opacité chez Glissant. La question de l'opacité est aussi une écologie nécessaire de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre et que quelque part, toi, tu viens avec cette obsession presque de l'outil occidental que tout doit pouvoir exister dans la lumière. Et quelque part, le film, lui, finit dans une forme d'obscurité.
Oui, c'est vrai. En fait, lui, il finit dans le noir, dans la nuit. Mais c'est vrai que, en fait, c'est ça qu'on va voir avec le deuxième film. Je crois. J'espère. Je ne sais pas. Oui, c'est ce fait de respecter l'opacité des autres, en fait, qui est quelque chose très intéressant, en fait. Et je crois que, avec le deuxième film qu'on va montrer, avec ce film-là, j'ai essayé de faire une sorte de film anti-ethnographique, en fait. Je crois que là, j'ai déjà commencé ce pensée anti-ethnographique dans le terme classique. Mais anti le cinéma ethnographique plutôt, je crois, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de gens qui ont déjà travaillé sur ces sujets dans l'anthropologie et l'ethnologie, mais dans le cinéma ou dans l'art qui dit que c'est ethnologique, ethnographique, je crois qu'on n'a pas vraiment vu ça.
Tu parles d'une approche du coup archéologique, alors du coup, qu'est-ce que tu entends par cette notion de d'archéologie, en fait.
Pour moi, je crois que... Enfin, archéologie, c'est une méthode dans mon travail. Que j'ai toujours... ça a toujours commencé avec les archives, par exemple. Donc, c'était une manière d'aller trouver dans les matériaux qui existent dans le présent les histoires ou des objets, ou, enfin, des morceaux, des fragments, des histoires. Et donc... De les mettre en place dans le présent comme une sorte d'histoire. Pour moi, ça, c'est une méthode archéologique. Donc, oui, je ne fais pas des digs, par exemple, dans la terre, mais c'est aussi une manière d'avoir une pensée matérialiste vers l'histoire.
Il y a aussi cette idée, peut-être dans l'archéologie, qu'au départ, ce qui va cristalliser le récit, c'est les objets, mais quelque part tout se passe après dans le rapport de ce qu'il se trouve entre les objets. Donc quelque part la question entre la cristallisation sur l'objet comme élément narratif ou sur les relations entre objets sont assez importantes. Je trouve que L'être du voyant est peut-être un film qui travaille sur la question de la relation entre les matières en quelque part.
Oui, bien sûr. En fait, c'est ça qu'on avait parlé un peu avant. Aussi, pour moi, l'archéologie, c'est une pratique animiste, comme on avait déjà discuté un peu, parce que, enfin, comme je disais dans le texte, que je viens de... Enfin, c'est un truc qu'on va sortir plus tard, mais... oui, c'est un fait de laisser parler des objets, de laisser parler... Enfin, de laisser parler des pierres, de laisser parler les passages aussi, mais des objets qui n'ont pas d'habitude de parler, comme les êtres humains, par exemple. Et quand je disais, un peu comme je disais dans le texte, quand on va dans un musée, par exemple, on voit une collection des objets et ils sont là comme une sorte d'assemblage qui peut aussi raconter une histoire à plusieurs voix. Mais c'est à l'archéologue de mettre tout ça en place, en fait. Et je crois que je me vois un peu dans ces manières-là comme une archéologue qui a essayé de comment ça ? Ouais, faire parler des objets qui sont fragmentisés ou dans des fragments et de les mettre tout en place comme une sorte de montage. Donc oui, c'est une approche animiste vers le matériel. Et oui, on va voir ça plus tard avec L'être du voyant.
Okay, justement, par rapport à... Moi, je trouve toujours qu'avec ce premier film-là, Logical Revolts, tu abandonnes un peu le rivage romantique de l'auteur, du narrateur, qui est encore très présent parce qu'il y a toute la dimension épistolaire qui reste dans l'écrit. Donc quelqu'un va raconter, mais de loin en loin se perd. Et que pour arriver à ce nouveau rivage avec L'être du voyant, où là, et quelque part, les situations parlent, et progressivement, le narrateur se disloque, ce que moi, je trouve être un geste peut-être de décolonisation, pour le coup.
Oui, oui, oui. Mais c'est difficile. Je ne sais pas si je laisse la situation en parler. Oui, peut-être, avec des images, mais avec ce film-là, c'est difficile à dire. Enfin, c'est difficile de dire ça, parce qu'il y a quand même une voix qui parle tout le temps. Et c'est ma voix en deux termes, en fait. Donc je sais pas si j'ai vraiment laissé de mon monde parler pour lui-même. Peut-être avec le deuxième film il y a un peu plus de ça, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de moments où peut-être que les images sont plus fortes que la voix. Sauf que dans ce film là dans le film Logical Revolts, je pense que les images sont assez faibles par rapport à avec cette relation avec la voix. Et c'est la voix qui toujours dit non, mais là, vous êtes en train de voir d'autres choses, de voir quelque chose qui est peut-être derrière l'image ou peut-être dehors de l'image. Mais avec L'être du voyant, ce n'est pas le cas. Je crois que peut-être là, avec ce film, je suis allé un peu plus proche vers cette possibilité de laisser les images de parler pour eux-mêmes, mais aussi les objets que se trouvent, ou même pas les objets, mais aussi les gens,
mais avec un contexte où tu as un lien aussi plus particulier que celui du contexte du Caire.
Oui, bien sûr aussi. Ouais. Enfin, ça, c'est très important à dire, parce que le Caire, quand je suis allé tourner le film au Caire, c'était la première fois en Égypte et tout ça. Mais avec le deuxième film, je l'ai tourné au Ghana. Et oui, j'ai du famille au Ghana. La belle-mère de ma grand-mère, elle vient du Ghana. C'est la deuxième mari de mon grand-père. Mon grand-père existe toujours là, un peu, comment on dit ça, under the earth. En fait, il était enterré au Ghana, donc il existe toujours là-bas, mais dans une autre forme. Et donc, oui, je connaissais Ghana avant d'y aller. J'ai une famille énorme avec laquelle j'ai fait le film. Donc, c'était la possibilité de faire un film dans une culture que je ne connais pas très bien, mais quand même où je peux avoir un peu plus de possibilités d'approcher les gens, parce qu'avec Logical Revolt, je suis toujours très loin de tout le monde. En fait, ça, c'est aussi un choix politique, un peu, d'essayer de garder une distance, de laisser entrer l'opacité entre moi et les Égyptiens qui étaient en train de faire la révolution, parce que moi, je ne voulais jamais vraiment essayer d'entrer dans la révolution, parce que ce n'était pas ma place. Mais avec ce film que j'ai fait au Ghana, ce n'est pas exactement la même chose de tout, en fait. J'ai essayé de donner la fabulation des images à quelqu'un d'autre, même si ça, c'est complètement fictif, parce que c'était moi qui ai tourné le film. Mais oui, ce n'était pas du tout le même cas. Et donc, on va voir ça avec la manière dont j'ai filmé. J'approche vraiment les corps de gens avec les caméras, même si je ne les laisse pas parler.
Dear Louis, now you know the truth. Let's move on. You need help, so help me too. You want to know more, so let me show you. I will show you what I know.
C'est basé sur un truc qui existe vraiment au Ghana qui s'appelle Sakawa. Et ça, c'est les arnaques de l'Internet faites avec des pouvoirs animistes, enfin des pouvoirs de voodoo, en fait juju au Ghana. Et on entend la voix là d'un arnaqueur qui est en train de parler avec moi.
Et quand tu dis que les Sakawa, c'est-à-dire que tu utilises aussi tout le vocabulaire qu'ils utilisent sur Internet pour des arnaques, tu veux dire, qu'est-ce que c'est cette voix d'arnaqueur? C'est la structure même de la manière dont l'adresse est construite. Est-ce que tu veux en savoir plus ou je vais te raconter?
Quoi, la voix là dans le film?
Non, la question de... Tu fais référence à une pratique d'arnaque au Ghana, mais c'est quoi exactement, je pense, cette pratique?
Ah oui, Sakawa.
Ouais.
Exactement, ok. Sakawa, en fait... Depuis des années, il y avait pas mal de gens qui ont commencé de gagner pas mal d'argent avec les arnaques sur l'Internet, avec des emails qu'on reçoit tous, j'imagine.
C'est les Nigérians qui sont un peu les champions du monde.
Eux, ils sont vraiment... eux, ils sont les rois, en fait, de ce pratique. Il y a même une loi maintenant, c'est le... 187 is the murder law in the States. Bon. Dans la constitution nigérienne, il y a maintenant une loi contre les arnaques. Mais bon... mais au Ghana, ce n'est pas si fort que ça, mais quand même, il y avait pas mal de gens. Mais maintenant, les gens, ils ont commencé de comprendre que s'il y a un email en disant qu'il y a quelqu'un au Ghana avec 2 millions de dollars, etc., que peut-être ça peut être un arnaque. Et donc, c'est devenu un peu plus difficile à gagner de l'argent avec ce travail. Donc, ils ont commencé d'utiliser d'autres manières d'aider ces escroqueries, en fait. Et donc, ils sont décidés de revenir vers les pratiques anciennes. Parce que, en fait, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit mais Louis, tu vois qu'avec la Bible, par exemple, on peut toujours demander à Dieu, le Dieu chrétien, pour avoir un peu plus d'argent. Mais le problème, c'est qu'il faut attendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Il faut prier chaque jour, et ça, c'est le problème avec la Bible. Donc, si moi, je vais... il a pas dit moi, parce que c'est toujours quelqu'un d'autre qu'il connaît. Parler avec un prêtre juju, ça peut se passer tout de suite. Et donc, pour des questions de visa, pour des billets d'avion, pour pas mal des choses, ils vont voir le prêtre juju. Mais en fait, avec Sakawa, qui est plus intéressant, c'est que, par exemple, un garçon de Sakawa, il va voir le prêtre juju. Ensemble, ils font une sorte de rite animiste. Et après, le garçon de Sakawa, il peut avoir soit une bague ou une petite écharpe ou un petit objet qui a maintenant qui tient ce pouvoir en fait.
Qui est chargé. Ouais.
Qui est chargé avec cette puissance. Et avec ça, quand il utilise l'internet en faisant ses escrocs, il peut entrer dans les tubes internet en fait pour voyager n'importe où dans le monde, pour entrer dans la chambre de quelqu'un comme moi ou comme toi ici en France et en fait d'entrer dans ton corps pour te convaincre.
C'est une possession vraiment.
C'est une possession vraiment quoi. Et ça marche. Il y a des gens qui ont vraiment gagné beaucoup de fric avec ça. Et en fait, dans la dernière scène dans le film, ça c'est ce qu'on appelle au Ghana un Sakawa spot, un lieu de Sakawa. Mais c'est pas eux, c'est pas là où ils font le Sakawa. Ça c'est un night spot. C'est comme un lieu de sortir pour les gens de Sakawa. Et donc là, on voit des voitures énormes, des Chrysler. Et là, c'est dans un village pas loin d'Accra, mais c'est un village avec pas des industries ou beaucoup de boulot et tout ça. Donc, il y avait vraiment des gens qui ont gagné, je ne sais pas combien, mais beaucoup d'argent pour un jeune Ghanéen. Parce qu'en plus, ce n'est pas très facile en ce moment. Il y a beaucoup de chômage au Ghana. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour des jeunes s'ils ne sont pas allés à l'université, par exemple. Donc, il faut trouver d'autres manières de trouver l'argent. Et par exemple, de faire cette extraction minière dans la terre pour chercher de l'or, avec ça, tu gagnes rien. C'est difficile.
Et donc, dans ce film-là, tu débutes en fait quelque chose qui va être aussi une ligne de travail pour des projets ultérieurs sur lesquels tu as travaillé, de remettre en relation quelque part le capitalisme industriel colonial avec un néo-capitalisme qui, à travers Internet, mais en montrant qu'il est aussi une circulation plus complexe, puisqu'en fait, il se passe de manière un peu multidirectionnelle.
Oui, exact, c'est ça. Et c'est un peu ça, parce que quand j'ai commencé de lire des choses autour de Sakawa, une des premières choses que j'ai lues, c'était que, je ne sais même pas comment dire ça, avec quelqu'un qui a dit que moi, je suis en train de faire ces arnaques pour revoler tout l'or qui a été volé pendant l'époque colonialiste. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, parce qu'ils arnaquent l'argent des gens de n'importe où, pas exactement que des Anglais ou des Portugais ou des ou les Dutch. Mais bon, oui. Et donc, comme je disais dans le texte qu'on avait fait, que j'ai trouvé Sakawa comme une sorte de détendement, en fait. Le fait d'utiliser l'Internet pour presque voler de l'argent tout le temps, en fait. Ça c'est... Je crois qu'on avait compris ça.
Après, tu travailles deux dimensions de cette question-là, parce qu'à la fois, il y a la dimension, je dirais, du virtuel et là, effectivement, de l'arnaque, qui, quelque part, rejoint une économie du langage, du symbolique qui est dans ton travail auparavant, c'est-à-dire le rapport presque d'hypnose de la langue. Mais à la fois, tu rajoutes dans ce film-là, à l'inverse, toute la matérialité de la soi-disant économie virtuelle. Et là, on voit aussi que l'extraction de l'or, c'est aussi le démontage des ordinateurs. Et
Oui, tout à fait, en fait, oui. J'avais oublié ça, oui, parce qu'en fait, on voit dans le film, dans ce terrain vague qui s'appelle Agbogbloshie, qui est devenu assez connu maintenant par des photographies, en fait, de Pieter Hugo, qui a fait une série de photos là-bas. Dans le même lieu, en fait, qui est dans le centre d'Accra, dans la capitale, on trouve cet énorme terrain vague. Et là, on voit des jeunes hommes, enfin, c'est presque des hommes, en fait, des jeunes qui sont en train de brûler des ordinateurs pour extraire l'argent, le cuir, l'or, enfin, les métaux précieux. Et j'ai trouvé ça intéressant par rapport à cette idée d'extraction minière qu'on peut aussi faire par la nouvelle technologie, comme par exemple l'Internet, qui est fait aujourd'hui avec les arnaqueurs du Sakawa, mais aussi des entreprises comme Amazon, ou Apple, ou Google, ou Facebook, qui sont aussi en train d'utiliser... parce que l'Internet a commencé comme quelque chose quoi, gratuit, ouvert à tout le monde. Ce n'était pas quelque chose qui était privatisé pour prendre l'argent des gens. Mais maintenant... C'est fini, ça. Enfin, c'est pas fini, ça, c'est encore d'être encore plus. Enfin, encore pire, quoi.
Peut-être c'était pour parler de ce projet que tu as sur, sur Toussaint l'ouverture. En tout cas, commencer à en parler, parce qu'on en parlera aussi plus longuement dans d'autres séances. Mais on l'a compris, c'était aussi progressivement dans ton travail une manière de, d'aller vers le parlant. Alors, c'est un cinéma qui parle, mais vers le parlant, du corps parlant, puisque c'est un film dans lequel il va probablement avoir des gens qui parlent pour de vrai devant la caméra. Donc c'est,
oui.
C'est quand même... Bon, on vous dit ça, bon, voilà, c'est un peu... c'est tout à fait autre chose.
C'est notre cinéma.
Voilà. Alors, c'est vrai que parallèlement, il y a à la fois toute une ligne de ton travail sur des pièces plus récentes où tu continues à exploiter cette question du rapport entre Internet et néolibéralisme, en fait, dans des pièces comme All That Is Solid que tu as fait récemment. Là, dans l'autre veine, c'est aussi essayer de revenir sur des questions aussi qui étaient dans Logical Revolts, qui étaient aussi ces questions de se ressaisir des questions du passé et voir dans quelle mesure ou comment elles pénètrent le présent. Tu disais justement que c'était une perspective qui, tout en utilisant les outils quelque part de postcolonial studies, mettait en critique la notion de postcolonial pour montrer en fait plutôt que ta pratique archéologique, c'est de retrouver la manière dont le passé s'inscrit et continue dans le présent, ce qui poserait l'hypothèse évidemment des exploitations qui se continuent, mais aussi peut-être des grands mythes et des grandes réalités révolutionnaires pour connaître leur impact dans le présent. Et donc là, il y a la question d'Haïti et la question de la figure de Toussaint l'ouverture, dont la question est de savoir si elle le fascine, surtout les gens qui travaillent les questions postcoloniales, ou si elle intéresse aussi l'haïtien au quotidien. Ouais. Quoi. Ou si encore, en tout cas, une matrice de projection.
Oui, oui, oui. En ce moment, je travaille sur un projet autour de Toussaint l'ouverture, qui a été le chef de la révolution haïtienne, qui a eu lieu en 1791, enfin, qui a commencé, qui a duré quand même... 13 ans. En fait, l'ouverture, il n'a jamais vu le fin de la révolution parce qu'il a été arrêté par Napoléon et amené ici en France, dans le Jura. Et en fait, il a été laissé mourir de faim dans ce château qui se trouve dans le Jura, dans l'est de France. Et dans ce prison, je crois qu'il a passé 2 ans dans sa chambre, dans la prison, où il a commencé d'écrire ses mémoires. Et à partir d'un moment, en fait, Napoléon, il a dit, comment on dit ça ? Il a dit que l'ouverture n'a pas le droit d'écrire, en fait. Il a dit que non, l'ouverture, il faut arrêter d'écrire. Parce qu'en fait, l'ouverture, il n'a pas arrêté d'écrire des lettres à Napoléon. En disant, non mais là, je crois que c'est bien, je peux sortir quand même de ce prison. Parce que pour beaucoup de raisons. Et donc Napoléon a dit à lui, non, il faut que tu arrêtes d'écrire. Mais l'ouverture a continué d'écrire quand même. Mais parce que c'était forbidden d'écrire, il a commencé de cacher toutes ses écritures dans le chapeau, enfin pas un chapeau, mais une sorte de... pas un turban, mais enfin, un tissu autour de sa tête, que Napoléon n'a jamais trouvé. Mais à la mort de l'ouverture, il y avait quelqu'un qui a trouvé sur son corps beaucoup de lettres. Enfin, pas des lettres, mais des notes, des idées, enfin, des écritures, qui existent toujours dans les archives à Saint-Denis, ici à Paris. Et donc, moi, j'ai commencé vraiment là, j'ai commencé dans les archives à Saint-Denis, en lisant tous ces articles, ils sont assez difficiles à lire parce que c'est une écriture à la main, assez pas très compréhensible. Et donc, ce projet a commencé un peu dans la même manière de Logical Revolts. Donc, ça a vraiment commencé dans des archives où j'ai trouvé des fragments d'une histoire coloniale très intéressante. Et moi, je voulais les mettre dans la lumière du présent, en fait. Mais... et aussi, j'essaie de faire une sorte d'étude topographique de ces documents, de ces fragments. Un peu encore que j'essaie de faire avec Logical Revolts. Donc, de prendre des documents du papier, des documents écrits, et d'aller chercher les lieux qui sont en fait mentionnée dans les documents. Donc, je me trouve là-bas, dans le Jura, il y a un an, je crois. Et j'ai commencé de voir toutes ces strates aussi, ces strates géologiques. Et j'ai commencé de penser à un projet encore archéologique à propos de la fontaine de Toussaint-Louverture. Et c'est très intéressant que c'est dans le Jura, parce que c'était là où la période jurassique a été pensée pour la première fois. Parce que c'est dans les strates, en fait, les strates de calcaire, où un scientifique, je ne me souviens plus son nom, Jacques Bonsergent, je crois, mais peut-être c'est quelqu'un d'autre, Jacques Bonsergent. Peut-être c'est un écrivain. Non, c'est un scientifique, je crois. Un géologue, en fait, qui, lui, il a lu pour la première fois l'histoire des dinosaures dans les strates, dans le Jura. Et donc, lui, il a décidé d'appeler cette période jurassique. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Parce que aussi, après la mort de Louverture, ces os, ils étaient juste jetés dans le paysage. Enfin, j'imagine, parce qu'il n'y a pas un tombeau pour Louverture. Il y a quand même un petit monument qui a été fait des années vraiment après. Mais ils n'ont jamais fait un vrai enterrement pour Louverture. Donc, en pensant des os de bones et les strates de calcaire, peut-être on peut dire que Louverture est devenu quelque chose de géologique. Peut-être Louverture existe toujours dans les strates du Jura, comme une sorte de fossile ou comme une, bon, enfin, comme une spectre géologique. Donc, je me suis dit, ah, c'est encore plus intéressant, peut-être c'est à moi de faire une sorte de processus animiste, de faire sortir en fait le fantôme de Louverture dans le paysage français du présent. Donc, pour l'instant, j'ai commencé à créer une histoire fictionnelle autour d'un personnage qu'on va voir dans ce paysage, qui rassemble peut-être un soldat du XVIIIe siècle d'Haïti, qui peut être Louverture, peut-être, qui s'est échappé, en fait. Parce que moi, j'ai envie de changer l'histoire officielle, que Louverture a laissé de mourir de faim dans son prison. Et je vais dire, non, Louverture, en fait, il s'est échappé de sa prison et il ran away dans les forêts du Jura. Et donc, on va voir toute une partie avec ce personnage. Et après, il va entrer dans une grotte, donc encore plus profondément dans son état géologique. Et donc, ce personnage, il va devenir complètement géologique vers la fin de ce parti fictionnel. Mais quand même, le film va continuer dans ce grotte. Et après, on va sortir du grotte. Et on va voir des palmiers, des bananiers, on va entendre une langue étrangère qui est la créole haïtienne. Et en fait, ce personnage, fantôme géologique, il se retrouve dans son pays natal, mais 200 ans après sa mort. Et donc à partir de là, le film va commencer d'être comme une sorte de documentaire autour de, enfin, Haïti dans le présent, mais Haïti dans son présent néocolonial, vu par les yeux de ce fantôme de Louverture. Donc c'est un peu le mélange entre Logical Revolt et L'être du voyant. Parce qu'avec L'être du voyant, j'essaye de montrer un point de vue fantomatique ou même machinique. Ici, ça sera un point de vue géologique, fantomatique, quelque chose comme ça.
Est-ce que le postcolonial, ça n'intéresse que les Européens?
Bah oui, exact.
Et j'ai pas de réponse, mais c'est une question que je trouve très pertinente. Effectivement, c'est une question qui est très adressée à. Donc, est-ce que ça voudrait dire que, à travers une réflexion critique sur le moment colonial, se continue une tradition de se raconter, de se répandre sur l'autre? Et ça, c'est une question assez épineuse, à vrai dire. Moi, j'ai pas de. En tout cas, c'est une question qui est une articulation critique que je trouve importante.
Oui. Et aussi de romanticiser les figures de l'histoire, comme Toussaint-Louverture, ça fait vraiment partie. J'ai plutôt envie de faire un film qui peut parler de Louverture, mais dans le présent, à Haïti, mais pas exactement avec Louverture. J'ai pas envie de parler avec des gens.
excusez-moi, est-ce que tu peux me dire quelque chose autour de l'ouverture maintenant dans ta vie? Non, parce que moi je vis ici dans un village, c'est pas intéressant. Non, je suis vraiment, enfin j'ai plutôt envie juste d'aller trouver quelques faits, enfin quelques vérités de Haïti contemporain et pour les mettre en relation avec cette histoire.
Tu avais aussi une perspective dans le travail, dans l'iconographie que tu avais rassemblée, de quand même s'intéresser à la question néocoloniale haïtienne, ah oui, même en la déconnectant de l'histoire de l'ouverture.
Et en fait, ça, c'était quelque chose que j'ai dit à Olivier avant. J'ai dit que, oui, que j'ai envie d'aller voir la réalité néocoloniale, par exemple, avec des hôtels. Et c'était Olivier qui m'a dit, ouais, mais faites attention avec ça, parce que c'est aussi que des Haïtiens, peut-être, qui sont... Enfin, non, mais même pas... peut-être, c'est vrai. Ils sont plutôt des Haïtiennes qui vivent...
Américains, quoi, qui sont en droit
aux États-Unis, qui ont envie d'aider leur pays. Donc, mais il y a toujours la question ici de MINUSTAH, par exemple, qui est la mission internationale des Nations Unies de stabilisation d'Haïti. Je ne sais pas du tout si je peux approcher cette question avec le film. Je ne sais pas si c'est facile à parler, par exemple, avec les gens de ONU. Mais ça peut être aussi très, très intéressant de voir la réalité de la continuation de cette dominance, de cette position de l'ONU à Haïti, qui maintient quand même bien Haïti dans sa pauvreté, dans sa condition de pauvreté, de besoin et tout ça. Et aussi de parler avec des charities. C'est quoi le mot charity en français?
Association caritative.
C'est difficile. Charities. Bon, mais ça, c'est toute une recherche que je dois faire à Haïti pour parler un peu plus avec... Mais pas que des gens de Haïti, mais aussi de parler, par exemple, avec des gens qui sont en train de construire des hôtels.
Mais lorsqu'on avait discuté, ce qu'on s'est rencontré dans un contexte un peu particulier de jury, quand on a discuté en tout cas dans ce contexte particulier, autant le dire, moi l'une des choses que je trouvais comment dire, intéressante et qui est très primaire là-dedans, c'est qu'en fait, au fond du fond, peu de gens savent qu'il y a eu cette révolution en Haïti, c'est tout simplement. Je veux dire, soit des Haïtiens dans la Caraïbe et dans le monde entier. C'est-à-dire, peut-être, et là, la Révolution française a un rôle là-dedans, c'est peut-être unique, authentique révolution mondiale. C'est-à-dire, révolution d'un peuple qui, quelque part, part d'un stade d'esclave jusqu'au stade citoyen dans une révolution, ce qui n'est pas du tout le cas de la Révolution française. Et l'une des hypothèses, souvent, c'est de dire que la Révolution française a une forme de jalousie de la Révolution haïtienne en tant que révolution authentique. Et ça, ce n'est pas une fiction.
Bah, et même aussi la Révolution américaine aussi, qui a fini par le commencement des États-Unis avec la déclaration d'indépendance qui a été écrite par Thomas Jefferson et tous ces gens-là qui étaient des esclavistes. Et ça, c'est une ironie dans l'histoire qui est énorme. Et c'est vrai que la révolution haïtienne est quelque chose qui était presque caché, en fait, spécialement ici en France. Je ne sais pas si, moi, en Angleterre, je n'ai jamais fait des études de la révolution haïtienne, mais même pas la révolution française, même pas la révolution anglaise, d'ailleurs, qui était avant tout ça. Mais oui, j'imagine pas que vous... J'imagine que vous ne faites pas des études de la révolution haïtienne ici.
Il y a une problématique qui est aussi très, très simple à comprendre. Hein, c'est que quand la Révolution française déclare la citoyenneté, la France possède des esclaves outre-mer. Donc la question de l'esclavagisme est le point aveugle de la Révolution française.
Oui.
C'est l'une des problématiques, puisque l'abolition de l'esclavage vient beaucoup plus tardivement que la Révolution française. Oui. Ce qui peut paraître complètement dingue avec une déclaration universelle des droits de l'homme qu'il faut attendre 70-80 ans quoi, après pour qu'il y ait une abolition qui va être très progressive en réalité. Quoi.
Oui.
Donc c'est une problématique de fond, c'est que la perspective, on parlait de Rousseau, hein, mais en tout cas la perspective des penseurs de la Révolution française, la question de l'esclavagisme est une... est presque une condition économique de la possibilité de la révolution.
Oui, oui, oui. Non, mais oui, bien sûr, c'est ça que...
Donc, il y a un paradoxe très difficile à dire.
Oui, mais c'est ça que je trouve très intéressant, en fait, dans le livre de C.L.R. James, les Jacobins noirs. Et en fait, une fois, j'ai dit... Enfin, C.L.R. James, dans Les Jacobins noirs, c'est un livre qu'il a écrit autour de la révolution haïtienne et l'histoire de Toussaint Louverture. Et dans ce livre, c'est juste un petit... quelques phrases, en fait. Il dit que la révolution française a été possible grâce à ou à cause de tout l'argent qui a été fait dans les colonies, et, enfin, par les traites des esclaves, parce que les villes les plus importantes étaient comme, par exemple, Bordeaux et Nantes, qui étaient quand même des villes très riches, parce qu'ils ont construit des bateaux pour aider la traite des esclaves. Et donc, C.L.R. James, il dit que... En fait, je crois que c'est Jean Jaurès qui a parlé de ça dans son histoire de la République française. Il dit que c'est une ironie dans l'histoire mondiale que cette révolution qui a été faite pour la liberté, égalité, fraternité, était basée sur cette fête économique qui était la traite des esclaves.
Merci Louis pour ces films.
Merci.
Merci.
Merci à tous.